Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le journal, Xavier Demani, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de 13h. Une marche blanche et un hommage pour Steve aujourd'hui, hommage au jeune homme mort à Nantes. Lors d'une intervention de police controversée, c'était il y a un an, jour pour jour. L'enquête se poursuit alors que les voix s'élèvent pour dénoncer les violences policières en France. La convention climat tranche et planche sur la question du référendum dernier de 7 week-ends de travail pour les 150 citoyens tirés au sort. Les propositions doivent être remises au gouvernement ce soir. Au sommaire également, l'attaque de Reading à l'ouest de Londres est désormais considérée comme terroriste. Nous serons en Angleterre. Les municipales, bataille politique à Levallois-Perret pour succéder au couple Balkany. La mort de l'historien israélien Zev Sternel, spécialiste du fascisme. Et puis, 21 juin oblige aujourd'hui tout pour la fête de la musique sur Inter, journée spéciale avec Louise Attaque et Philippe Catherine notamment.
France Inter.
C'était il y a un an déjà la disparition à Nantes de Steve Maya Canisso le soir de la fête de la musique après une intervention de police pour disperser la foule. Les interrogations puis les recherches plusieurs semaines avant que son corps ne soit retrouvé un mois plus tard dans la Loire. Une marche blanche doit avoir lieu cet après-midi en direction du quai Wilson, là où le jeune homme de 24 ans avait été vu pour la dernière fois. L'enquête, elle, se poursuit, David Di Giacomo, autour du rôle des forces de l'ordre qui ont délogé les fêtards ce soir-là.
Ses proches en sont convaincus. Depuis le début, Steve Maya Canisso est tombé dans l'eau pendant l'intervention de la police. Ils attendent dans les tout prochains jours les résultats d'expertise du téléphone portable du jeune homme. Des résultats très importants pour savoir où il se trouvait précisément lors des tirs de gaz lacrymogène des policiers. L'avocate de la famille se dit confiante, maître Cécile de Oliveira.
Je crois que pour la plupart des personnes qui étaient présentes cette nuit-là sur le quai de Loire, cette intervention est apparue comme brutale, incompréhensible, dangereuse et on peut espérer, c'est le souhait de la famille de Steve Maya Canisso, une avancée importante, j'espère, après l'été, avec la mise en examen des personnes qui sont à l'origine de la mort de Steve Maya Canisso.
Dans un rapport demandé par le ministère de l'Intérieur, l'inspection générale de l'administration a pointé le manque de discernement du commissaire qui a piloté l'opération de police cette nuit-là. Dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire, il n'a pas été sanctionné, mais ce policier a été muté dans une autre région.
Un premier anniversaire et une enquête donc qui se déroule dans un contexte particulier en France, celui de la dénonciation régulière ces dernières semaines de violences policières. Ce matin, Christophe Castaner assume, dit-il, de vouloir bousculer les choses, notamment sur les techniques d'interpellation des policiers. Il rappelle son soutien aux policiers dans un entretien au journal du dimanche et confirme aussi son souhait de rester ministre de l'Intérieur alors qu'un possible remaniement cet été pourrait le pousser vers la sortie du gouvernement. En bref, le décès de l'ancien garde des Sceaux Pascal Clément. Il avait 75 ans, ex-ministre entre 2005 et 2007 sous la présidence de Jacques Chirac. Il est mort des suites d'une infection pulmonaire, mais il était négatif au coronavirus, précise sa famille. Les dernières heures de la convention climat aujourd'hui dimanche. Les 150 citoyens tirés au sort doivent remettre leurs propositions à la ministre Elisabeth Borne à 15h30. L'un des derniers points à régler, c'est la question du référendum. Emmanuel Macron s'est déjà dit favorable à une consultation des Français sur certaines propositions. Oui, mais lesquelles? C'est ce qui fait débat et l'écologiste Corinne Lepage prévient. Attention à ne pas utiliser le référendum sur des questions secondaires.
Il ne faudrait pas tomber dans des mesurettes qui seraient soumises à référendum et qui n'auraient pas beaucoup de sens. Si on dérange les Français pour qu'ils aillent voter, c'est sur des questions majeures qui sont vraiment des grandes questions d'orientation. Cela peut être sur la taxe carbone et la fiscalité, cela peut être sur l'orientation du mix énergétique et l'accélération des énergies renouvelables, cela peut être effectivement sur la modification de la Constitution. Là, oui, mais vous voyez bien aller juste poser une question sur la rénovation des bâtiments ou le 110 km/h qui en plus est probablement pas la mesure que tous les Français plébisciteraient. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée.
L'ancienne ministre Corinne Lepage, interrogée ce matin sur France Info par Jules de Kiss. Tout à l'heure, les 150 citoyens se sont mis d'accord sur le fait de soumettre à référendum la création d'un crime d'écocide, proposition récemment rejetée par le Sénat et l'Assemblée nationale. Reste à savoir si d'autres propositions seront soumises à un référendum également. Aujourd'hui, 21 juin, donc fête de la musique, on va en parler tout à l'heure en fin de journal, mais aussi fête des pères. Des pères qui, pour certains, réclament une évolution nette du congé paternité. Ils le veulent plus long, un mois contre 11 jours actuellement, et signent une tribune ce matin dans le Huffington Post. L'un d'entre eux, Frédéric Faurillon, il répond à Amélie Bonté de France Bleu Normandie.
Je trouve que c'est tellement important de se dire aujourd'hui que le rôle du père, c'est pas un instinct, il se crée, hein. Il faut se prendre en main, et d'où l'intérêt de cette tribune, de se dire, eh bien allez, on y va. Nous sommes quand même dans une Union européenne où dans d'autres pays, les congés paternité sont beaucoup beaucoup plus longs. On sait la Suède, la Finlande, des choses comme ça. Et effectivement, économiquement, le pays se casse pas la tronche, hein. Et surtout, les enfants sont épanouis. Un enfant suédois, vous lui demandez ce que c'est une claque ou une fessée, il ne sait pas ce que c'est. Parce qu'il y a un accompagnement réel de l'enfant et l'accompagnement commence dès le départ. Et donc, il était important pour moi d'expliquer que moi, j'ai eu la chance d'avoir un congé paternité un peu plus long que les 11 jours. J'ai eu le droit à 5 mois parce que j'ai demandé à mon employeur un mi-temps, mais c'était ne serait-ce qu'un mi-temps, donc je travaillais quand même. Après ce mi-temps, je me suis dit, ma fille, elle a besoin de moi. Réellement, tous les jours. Et cette charge mentale ne peut pas être appuyée seulement sur les épaules d'une maman. C'est pas possible.
L'allongement du congé paternité à un mois, proposition soutenue par la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa. Le retour de l'électricité dans les 5e et 10e arrondissements de Marseille. 3000 foyers en étaient privés depuis hier après-midi à cause d'un incendie au niveau d'un échangeur de l'autoroute A50. Marseille, où la campagne des municipales est mouvementée, à une semaine du second tour, la succession du sortant Jean-Claude Gaudin, loin d'être assuré. Véritable bataille aussi à Levallois-Perret, Haute-Seine, tout près de Paris, dans la ville des époux Balkany, condamnés pour fraude fiscale et inéligibles désormais. Les trois candidats en lice se déchirent pour récupérer le siège occupé 20 ans durant par Patrick Balkany. Sarah Tuchérère.
Officiellement, les Balkany n'ont pas de candidat dans cette élection. Ils n'en ont plus. Après le premier tour, ils ont désavoué celle qu'ils avaient désignée comme leur héritière, Agnès Potier-Dumas.
Patrick Balkany aurait souhaité que je lui offre un poste ainsi qu'à Isabelle Balkany une fois mon élection passée. Je m'y suis opposée. Ça aurait été jeter le doute sur mais qui décide ?
Son credo, le renouveau dans la continuité.
Moi et 50% de mes colistiers, on fait partie de l'équipe en place. Puis la tête change. Je suis d'une génération où on a toujours aussi été attentif aux questions de transparence, etc. C'est aussi quelque chose qui va pouvoir changer.
Le changement, c'est moi, répond Arnaud de Courson. Opposant de longue date, il promet une gestion intègre.
Un certain nombre d'opérations ont été réalisées avec des appels d'offres compliqués. C'est pas le prix qui est le premier point, c'est l'habitude de travailler avec la ville. Je me souviens notamment de l'appel d'offres pour les avocats. On avait pris l'avocat personnel de Patrick Balkany. On va en finir avec ça.
Pas encore trentenaire, Lies met cette face se montre prudent quand il aborde le bilan Balkany.
Je suis un enfant de Levallois, je sais ce que je lui dois. On peut préserver notre qualité de vie en renouvelant les pratiques et c'est avec plus de démocratie qu'on prend des décisions plus efficaces.
En attendant ce nouveau souffle promis par tous les candidats, la campagne se déroule dans un climat délétère. En témoigne cette polémique entre Arnaud de Courson et Agnès Potier-Dumas autour d'une photo censée représenter un salut nazi.
Sarah Tuchérère et le second tour des municipales dimanche prochain le 28 juin dans les 5000 communes et grandes villes qui doivent revoter. En Angleterre, l'attaque au couteau à Reading hier à l'ouest de Londres, finalement considérée comme un acte terroriste. Un homme de 25 ans a fait 3 morts et 3 blessés. Il a été arrêté et donc attaque terroriste comme l'a confirmé la police en fin de matinée. À Londres, Antoine Gignot.
Les hommes de la brigade antiterroriste ont travaillé toute la nuit, explique le chef de la police de Reading, et ils en ont la certitude, l'attaque au couteau menée hier soir est un acte terroriste. L'homme de 25 ans, arrêté sur les lieux, est toujours en garde à vue. Il s'agit, selon plusieurs médias, d'un ressortissant libyen qui s'est attaqué aux alentours de 20h à un petit groupe de promeneurs sur les pelouses de Forbury Gardens, le principal parc de Reading, faisant 3 morts et 3 blessés. Le cordon de sécurité reste en place, l'enquête continue et les policiers lancent un appel à témoins en demandant aux Britanniques de transmettre les vidéos tournées sur place sans les publier sur les réseaux sociaux. Par respect pour les personnes décédées, explique le chef de la police, et par respect pour leurs proches, rejoint par plusieurs responsables politiques qui évoquent des images choquantes mises en ligne hier soir. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Aux États-Unis, une fusillade a fait un mort et 11 blessés à Minneapolis. Pas plus de précisions pour l'instant sur les victimes. La ville du Minnesota, théâtre d'importantes manifestations contre le racisme et les violences policières ces dernières semaines après la mort de George Floyd. Lors de son interpellation. Aux États-Unis toujours, où Donald Trump est de nouveau en campagne pour la présidentielle. Premier meeting hier dans l'Oklahoma, à Tulsa, avec une charge contre les médias, évidemment, contre les manifestants antiracistes, et évidemment contre son opposant Joe Biden, traité de marionnette de la gauche radicale. Quant à l'affluence, bilan mitigé, 10 000 personnes et une salle à moitié vide. Seuls les plus convaincus s'étaient déplacés, Loïc Piala.
Elle débriefe le meeting dans un des couloirs du Box Center. Il restait beaucoup de sièges vides dans cette salle de 19 000 places. Mais Cheryl et ses deux amis font partie des guerriers salués par Donald Trump, ses sympathisants venus l'écouter malgré le coronavirus.
You know what? Il a fait du très bon boulot. Il a énergisé sa base, il nous a dit ce qu'on voulait entendre. Je suis heureuse qu'il soit venu.
De toute façon, Caroline était sous le charme avant même que le président américain n'entame son discours.
On était assises près de la scène et quand il est arrivé, j'ai pleuré.
Donald Trump n'a pas changé ses habitudes après cette pause forcée de 3 mois. Il continue de multiplier les digressions et n'hésite pas à allonger son discours avec de longs détours. Diana, la troisième membre du groupe, a apprécié le one-man show.
Il est beaucoup plus drôle en personne. Il a un talent pour raconter des histoires vraies. C'est notre chouchou.
À l'écart, John, gaillard à la barbe et aux épaules larges, a aussi aimé ce qu'il a entendu, même quand le leader républicain a quasiment traité son rival démocrate Joe Biden de vieillard cynique.
N'importe qui avec un cerveau voit bien que Joe Biden n'a plus toute sa tête. Il faut être idiot pour croire qu'il est capable de gérer ce pays mieux que Trump.
À Tulsa, Loïc Piala pour France Inter.
Les tests d'un possible vaccin contre le coronavirus entamés en Chine sur des humains, annonce faite ce matin par l'Académie chinoise de médecine. Il y a une dizaine de vaccins en total qui font l'objet de tels tests pour l'instant, mais aucun n'a franchi le troisième stade, celui des essais cliniques à grande échelle. Un mot encore sur la réouverture de la frontière franco-espagnole. C'était à minuit ce matin, au terme d'un strict confinement du pays pendant 100 jours. Pas de quarantaine obligatoire pour ceux qui entrent ou sortent du pays. La frontière avec le Portugal restera fermé jusqu'au 1er juillet. 13h12 sur France Inter. C'était un historien célèbre, spécialiste du fascisme, figure de la gauche israélienne aussi. Zev Sternel est mort, il avait 85 ans. Il s'intéressait notamment aux racines françaises du fascisme et proposait un examen de conscience à la France sur ce sujet épineux. C'est un autre historien israélien qui lui rend hommage, Shlomo Sand. Alors qu'il s'est à plusieurs reprises opposé aux thèses de Sternel, il estime que leurs divergences idéologiques l'ont aidé dans sa réflexion. Il est au téléphone de Cécilia Arbenin.
J'étais une sorte de rival théorique de ses thèses sur le fascisme en France. J'écritais sévèrement ses positions à propos du fait que le fascisme naisse en France et pas en Italie. Bon, il était très fâché, c'est normal. Et Vichy, ce n'est pas fasciste. Beaucoup de socialistes ont voté plein pouvoir à Pétain. On ne peut pas avoir un fascisme non nationaliste. Et je reste toujours convaincu que le régime de Vichy était un régime de gaullasse, antisémite d'ailleurs, mais pas fasciste. J'étais contente que Macron, il y a 3 ans, je crois, a dit que Vichy c'est la France. Donc je crois que Vichy c'est la France, mais c'est aussi une cassure. Et j'oublie jamais qu'il y avait une occupation militaire. Mais Sternel reste une part très importante de ma vie, de mon développement. Et grâce à la critique que j'ai formulée en face de lui. Et je crois que cette opposition m'a contribué beaucoup à mon démarche historique après.
Shlomo Sand, professeur à l'université de Tel Aviv en Israël. 13h13, et si l'on poursuivait ce journal en chanson.
Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends.
Louise Attaque et Je t'emmène au vent, l'une de des chansons mythiques du groupe de Gaëtan Roussel. Et bonjour à Rebecca Manzoni.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Rebecca, voix de la musique sur Inter, bien connue des auditeurs du 7-9 notamment. En ce 21 juin, vous nous accompagnez depuis 11h pour une journée spéciale fête de la musique en direct de l'Olympia. Ça a commencé avec Pomme tout à l'heure. Là, si on écoute un peu de Louise Attaque, c'est parce que c'est l'un des autres temps forts de la journée.
Oui, Louise Attac se réunit pour France Inter sur la scène de l'Olympia où ils vont rejouer l'intégralité de leur premier album, paru il y a 23 ans, en 97. Parce que cette fête de la musique, en fait, elle se déroule aussi dans une ambiance de première fois quand on entre dans le hall et qu'on descend la pente, parce que ce hall est en pente, il vous mène naturellement vers le bar. Il y a des affiches de concerts qui n'auront pas lieu aux dates prévues et qui seront reportées à l'automne. Donc cette fête de la musique depuis l'Olympia aujourd'hui, c'est un peu comme une rentrée. Puisque la scène est restée vide depuis 3 mois.
Bon, et puis cet album de Louise Attac, c'est l'album mythique. Il y a tous les tubes du groupe sur cet album.
Je t'emmène au vent, ton invitation, Léa. Oui, oui.
D'ailleurs, je précise qu'il y a des vidéos hein, de Louise Attac à l'Olympia qui sont sur les réseaux sociaux de France Inter. On va aussi retrouver cet après-midi, Rebecca, un hommage à Christophe dans le grand atelier de Vincent Josse à 15h. Quoi d'autre d'ici ce soir ?
Alors d'ici ce soir, à 17h, il y a un best-of des soirées pyjama qu'on a organisé 12 semaines durant, pendant le confinement et pendant le déconfinement donc, avec Stéphane Echer, Louis Chédid, Clara Luciani, des soirées où les artistes étaient chez eux et moi dans ma cuisine parce que tout ça s'est fait à distance. Et puis à partir de 18h10, Louise Attac en direct, 21h, Philippe Catherine et jusqu'à minuit, un summer mix d'Étienne de Crécy.
D'ailleurs, les soirées pyjama, c'était la seule solution pour pouvoir organiser des concerts en fait et les diffuser sur Inter.
Oui, on s'est demandé, on a été un petit peu désarmés au départ, on s'est demandé comment continuer à faire vivre la musique sur l'antenne. Et cette solution s'est imposée. Et d'ailleurs, à titre individuel, tous les artistes ont commencé à jouer depuis chez eux, depuis leur salon, depuis leur cuisine, sur les réseaux sociaux. Là, c'était sensiblement le même principe. Il y avait aussi une rencontre. Il y avait un invité choisi par l'artiste du jour. Et on était, selon la formule désormais consacrée, tous ensemble et chacun chez soi.
Rebecca, juste un dernier mot peut-être. Comment ça s'est passé ce premier concert avec Pomme ? Parce que c'est très particulier de faire un concert face à personne en fait.
Oui, c'est les fauteuils rouges de l'Olympia étaient vides, mais tous les artistes qui jouent aujourd'hui, qui ont joué et qui vont jouer, le font comme si le public était là. Je pense que c'est vraiment la même mise en condition, même si évidemment un public il participe à la façon dont le concert se déroule. Mais il y a quand même cette idée de renouer avec la raison pour laquelle Pomme, Louise Attac, Catherine, Étienne de Crécy ont choisi cette vie-là, à savoir être sur scène et échanger la musique. Donc même si la clameur du public n'est pas là, elle pourra aussi exister sur les réseaux sociaux puisque Louise Attac, par exemple, sera évidemment sur l'antenne d'Inter, mais aussi en Facebook Live sur les comptes Facebook d'Inter, de Gaëtan Roussel et du groupe Louise Attac.
Et tous les liens, évidemment, sont sur franceinter.fr. Merci beaucoup Rebecca, en direct d'un Olympia un peu vide, mais pas sans âme. Donc, prochain rendez-vous, donc 15h avec Vincent Josse, hommage à Christophe. 17h, les soirées pyjama, le meilleur avec Stéphane Echer et Louis Chédid notamment. Et donc, juste après le journal de 18h, Louise Attac qui rejoue son premier album. Un mot aussi du téléphone sonne ce soir. Comment faire, comment consommer la musique après cette crise du Covid? C'est le thème du débat ce soir avec Pierre Veil et ses invités. Vos questions, vous êtes les bienvenus évidemment au standard d'Inter en fin d'après-midi à partir de 17h au 01 45 24 7000. Fête de la musique particulière, donc pas ou peu de concerts dans les rues ce soir. Rassemblement toujours interdit au-delà de 10 personnes, mais reprise quand même petit à petit pour le secteur culturel. Réouverture notamment des cinémas dès demain, dans les cinémas et les salles de spectacle. D'ailleurs, la demi-jauge est levée, annonce du ministre de la Culture. Les salles peuvent désormais accueillir plus de la moitié de leurs spectateurs. Il faudra quand même toujours séparer d'un siège vide les groupes de personnes qui ne se connaissent pas. La reprise aussi dans les activités sportives, les sports collectifs, à partir de demain notamment, c'était très attendu. Chez les boxeurs, si les pros vont pouvoir repartir à l'entraînement, ce n'est pas le cas des amateurs qui commencent, Amaya Cazenave, à trouver le temps long.
Si, chez les professionnels, les sportifs ont pu être massivement testés, ce dépistage est impossible dans la masse des pratiquants, un argument du gouvernement que ne veut pas entendre Christian Hérouard. Il est entraîneur de Full Contact à Anglette.
On parle de projection. Quand on pratique les sports de combat, on a un protège-dents. On a juste besoin de leur dire de garder le protège-dents serré, de ne pas ouvrir la bouche. On peut même leur dire éventuellement, on peut rajouter pourquoi pas un masque sous le nez. On pourrait donner des directives comme ça, ou au moins poser la question aux instructeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer, comment on pourrait le faire, si c'est faisable.
Dans le milieu, il y a aussi ceux qui comprennent ces restrictions et qui mettent à profit cette période pour travailler leur souplesse, leurs conditions physiques, comme Fabrice Aman, professeur de boxe thaï à Biarritz.
Notamment en Muay Thai, où il y a cette phase, on appelle ça donc de clinch, qui est du corps à corps. Au-delà du fait qu'il y a le contact de transpiration évident, surtout en cette période d'été, il peut y avoir des blessures fréquentes, d'accord, des petits saignements et autres. Donc il y a une transmission de fluide, entre guillemets, qui n'a pas à négliger. Oui, on a envie d'y aller, oui, on a envie de se faire plaisir, mais c'est trop grave.
Pour lui, ce laps de temps est aussi indispensable pour ne pas se blesser aussitôt remonté sur le ring. Certains pratiquants sont sortis du confinement, hors de forme et avec quelques kilos en trop.
Amaya Cazenave, voilà, en